Bonjour. Civis pacem, parabellum. Si tu veux, la paix prépare la guerre. Tout le monde a deviné. Il s'agit de la rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron, programmée ce week-end pour l'ouverture du G20 à Rome. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, continuera d'asseoir ce rapprochement entre France et États-Unis en venant à Paris à l'occasion de la conférence pour la paix, initiée par Emmanuel Macron à propos des commémorations du 11 novembre. La sensibilité française aurait certes apprécié que Joe Biden fasse un geste plus engageant en venant lui-même sur le sol français avant le G20. Mais la reprise des relations cordiales après l'affaire des sous-marins australiens se joue sur fond militaire. La création d'une armée européenne, l'implication des États-Unis au Sahel. Si vis pacem, parabellum. Est-ce que cet adage de Jules César est la seule règle en diplomatie internationale, surtout pour les États-Unis qui doivent tant à la France culturelle? Est-il encore possible de parler d'entente cordiale alors que l'armement vise toujours un intérêt particulier? En l'occurrence, impliquer le monde entier dans un tenir-tête à la Chine juteux pour la vente d'armes américaines. Regardons les points de vue philosophiques. La politique concerne les choses et les intérêts du monde et relève des passions naturelles à l'homme et de sa raison, dit Maritain. Dans cette tension, l'entre-deux pour le calcul froid, voire cynique, est aussi probable que la véritable amitié. Pour Aristote, la philia, l'amitié, est une composante essentielle de la vie de la cité. Aujourd'hui, au plan international, qu'est-ce qui pourrait fonder une juste et véritable entente, qui plus est, orientée vers la paix? Réponse: sans la bonté, l'amour et la charité, ce qu'il y a de meilleur en nous tourne dans nos mains à un usage d'infortune. C'est qu'une droite expérience politique ne peut se développer dans les peuples que si les passions et la raison y sont orientées par un solide fond de vertu collective, par la foi et l'honneur et la soif de justice, écrit Maritain en 43. Pour Henri Bergson, l'élan d'un amour infiniment plus fort que la philanthropie, élan qui est vie en nous de l'amour créateur des êtres et rend vraiment chaque humain notre prochain, cet élan a fait franchir au dévouement humain les frontières fermées des groupes sociaux naturels, groupes familiales et groupes nationales, et l'a dilaté jusqu'au genre humain tout entier. S'il s'agit de paix, alors, poursuit Jacques Maritain, sans briser les liens de chair et de sang, d'intérêt, de tradition et de fierté dont le corps politique a besoin, et sans détruire les lois sévères de son existence et de sa conservation, un tel amour, élargi à tous les hommes, transcende et tend à intégrer l'humanité tout entière dans une communauté des nations et des peuples où les hommes soient réconciliés. Pure utopie, hein, ces philosophes. Non, non. Comment ne pas voir que ce fil d'Ariane, fondé sur la nature humaine, fil qui court d'Aristote à Maritain en passant par Bergson, transcende l'utilitarisme des philosophes anglais, de Hobbes à Jeremy Bentham, dans une vision réaliste que la formule de Bergson résume ainsi: la démocratie est d'essence évangélique et elle a pour moteur l'amour. La traduction de cette conclusion, ce sont les droits de l'homme. Si la personne humaine est sans droit, il n'y a nulle part de droit, ni par conséquent d'autorité, poursuit Maritain en 1944, à propos du concept qui lui est si cher de démocratie organique, qui serait par essence la cité des droits de la personne. Civis pacem, para hominum, si tu veux la paix, prépare l'homme, restaure-le, comprends-le et honore-le, pourrait être ainsi l'adage de la rencontre romaine de Macron et Biden ce week-end.